voilà, au début de mes prédications.
Elle va arriver.
C'est une photo qui représente en fait, dans certains films, Jésus et ses disciples. C'est bien qu'une représentation. Et je vous propose aujourd'hui de poursuivre cette voilà, une partie de regarder comment notre Seigneur vivait, ce qu'il disait. Et que voilà, que chacun d'entre nous, que ce soit les vieux chrétiens, les vieux routards de la vie chrétienne, ceux qui le connaissent bien, puissent redécouvrir notre Dieu. Que les plus jeunes puissent vraiment approfondir qui est Dieu. Et puis, si certains dans cette salle ne le connaissent pas bien, eh bien, qu'ils puissent découvrir qu'il est bien plus qu'un seul homme et qu'ils puissent faire ce choix de croire en lui. Je vous propose la lecture en Matthieu 10. On va lire en Matthieu 10 et on va lire une dizaine de versets. J'ai un problème. J'ai juste un petit problème. Ça, c'est fort. On va le trouver, vous inquiétez pas. En fait, c'est un passage qu'on trouve dans 2. Ça, c'est assez. En fait, j'ai travaillé ce passage-là, mais c'est pas là où je l'ai. Je vais vous le retrouver. Ah! 11, c'est juste ça. J'étais tout perturbé. C'est Matthieu 11. Matthieu 11, et au verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce passage présente comme deux paroles différentes de notre Seigneur, comme deux visages. Une deuxième partie, notre passage, où on voit notre Seigneur qui se présente comme doux et humble de cœur et qui fait cet appel à venir à lui pour trouver du repos pour ceux qui sont fatigués et chargés. Et combien c'est agréable d'entendre ces paroles « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés » pour trouver le repos de nos âmes. Mais la première partie nous montre un autre visage de notre Seigneur. Celui qui va faire des reproches, celui qui va prononcer malédiction sur ces villes, et qui va prononcer un sévère jugement sur ces villes, plus sévère que celui de Sodome. Deux visages, de paroles bien différentes. Et mon premier point, ce serait qu'on découvre Dieu comme il est réellement et pas comme on le voudrait, pas comme on l'imagine, parce qu'on a nos passages préférés, parce qu'on a les livres qu'on lit régulièrement, et il y a les livres qu'on ne lit plus ou qu'on ne lit pas. Et j'ai pris cette photo à droite en haut, parce que parfois notre compréhension de Dieu n'est pas équilibrée, parce qu'elle n'est pas complète. Certains connaissent peut-être un homme qui s'appelle Michel Quast et qui a écrit des livres de prière. Et dans un livre, il prend cette expression qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, « Déshabille ton Dieu ». Et ce qu'il veut dire par là, c'est « Enlève toutes les images que tu t'es faites, redécouvre Dieu comme il est, pas comme tu le veux, comme réellement il est. » Et comme application très pratique, je voudrais nous inviter à lire la parole, toute la parole de Dieu, dans son intégralité, et en s'interrogeant, quel que soit le passage, qu'est-ce que j'apprends sur mon Dieu ? Et peut-être que certains passages vont nous perturber parce que c'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce qu'on a l'habitude de lire. Et je vous propose une lecture que j'ai lue cette semaine. Ézéchiel 7. Et peut-être ce qu'on va lire n'est pas ce que vous avez l'habitude de lire, mais c'est une autre facette de notre Dieu. Ézéchiel 7. Et ce texte s'adresse au peuple d'Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant la fin vient sur toi, j'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié. Je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Au verset 7, ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Et quand j'ai lu ça, il y a une dizaine de jours, j'ai été frappé par cette expression, je suis l'Éternel, celui qui frappe. Il est Emmanuel, on l'a dit, il est aussi l'Éternel qui frappe. Que nous lisions toute la parole, et clairement, ce texte d'Ézéchiel est dans un temps particulier pour le peuple d'Israël, qui correspond à un jugement, voilà. J'ai juste voulu lire pour illustrer parfois qu'on a une vision qui n'est pas complète, mais ce texte, il ne faut pas se l'appliquer directement. Il faut juste, après, ça demande une étude particulière et je ne veux pas aller plus loin. Ça s'attesse vraiment à un temps particulier de jugement. Mais voilà, que vraiment on essaie de ce désir de découvrir notre Dieu comme il est et pas comme je l'imagine ou le voudrais. Et c'est un peu ce qu'on va faire ce matin. Si tu veux juste passer, je ne veux pas le traiter, c'est plutôt des devoirs pour vous cette semaine, pour ceux qui veulent travailler un peu, c'est la rentrée des classes. Je ne veux pas l'étudier, mais vous avez dans la première partie où Dieu va prononcer ce malheur contre ces villes de Galilée, il oppose deux villes, et c'est un peu choquant parce qu'en fait il va quelque part prononcer un jugement très sévère sur Bethsaïda et Chorazine qui sont des villes de Galilée. Des disciples viennent de ces villes-là, il a fait beaucoup de miracles, et puis il compare avec des villes comme Tyr et Sidon, qui sont des villes de Phénicie, des villes phéniciennes, où on adorait des villes idolâtres, où on adorait les Baal et les Astartès. Et Dieu dit, ces villes-là seront jugées beaucoup plus sévèrement. Et je vous laisse travailler le sujet. Le point principal, et vous trouverez d'autres passages qu'on trouve dans les évangiles, où en fait, il explique que c'est en fonction de ce qui a été reçu. Et ces villes-là, elles ont eu une bénédiction, un privilège, celui de voir le Christ, de voir les miracles. Et parce qu'elles ont vu tout ça, parce qu'elles ont plus reçu, elles seront jugées plus sévèrement. Et c'est un principe de la justice de Dieu. Mais voilà, travaillez tout ça, ça vous fera des devoirs pour cette semaine sur comment Dieu exerce son jugement. Mais je veux poursuivre cette dualité, cette complémentarité qu'on a vue dans les visages de notre Seigneur en Romains 11. On va voir une autre Romains 11 avec un autre passage. Romains 11 et au verset 11. Et on va lire d'abord le verset 11, puis du verset 17 au verset 23. Et je vais un petit peu rajouter pour que le texte soit compréhensible, parce que chaque fois qu'il y aura un pronom personnel, rajouter si ce serait le peuple d'Israël ou si ce sont les nations. Romains 11 au verset 11. Mais par leur chute, mais par la chute du peuple d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens, aux nations, afin que le peuple d'Israël soit excité à la jalousie. Verset 17. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, c'est-à-dire le peuple d'Israël, si toi, les nations, qui étaient un olivier sauvage, tu étais greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches Israël ont été retranchées, afin que moi, des nations, je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, Israël, il ne t'épargnera pas non plus. Verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté en bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, Israël, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer à nouveau. Je vais juste reprendre ce texte et le redire pour être sûr qu'on l'ait bien compris. Parce que le peuple d'Israël a été incrédule, parce qu'il s'est détourné de Dieu, et en particulier en ayant rejeté Christ le Messie. Dieu va écarter Israël pour un temps. Alors, dans sa bonté, le salut est offert aux nations dont nous faisons partie. Et il compare après à un olivier avec une branche qu'on enlève, qu'on retranche. Et donc la branche d'Israël qui est retirée. Et on greffe une autre branche d'un olivier sauvage. Et ce sont les nations. Et ce verset extrêmement fort pour moi considère donc la bonté, la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, donc Israël, et bonté envers toi, les non-juifs. Qui peut être maintenant faire partie et devenir le peuple de Dieu. Alors peut-être que ce mot sévérité va peut-être un peu vous déranger. Je ne prie pas souvent au Dieu sévère, je préfère dire au tendre Père, c'est plus comme ça que je prie. Le mot sévérité, dans le grec, pour retravailler un peu ce terme, veut dire, j'ai noté que c'est la notion d'une coupure, c'est de couper franchement. C'est une rigueur qui ne fléchit pas. Notre Dieu juge avec rigueur, avec exigence. Il ne fléchit pas. Et de la même manière qu'on a vu en Matthieu, ces deux visages de Jésus-Christ qui est à la fois celui qui était immensément bon et qui se présente en disant « Venez à moi, je vous donnerai du repos ». Il est celui qui maudit les villes. On trouve cette même dualité dans ce passage d'un Dieu bon et nous en sommes les bénéficiaires de la bonté de Dieu envers les nations, mais d'un Dieu juste. On va poursuivre. Et je vous propose de poursuivre en Exode 34. Comment Dieu se présente-t-il à Moïse ? Comment est-ce que Dieu se présente à Moïse en Exode 34 ? Et au verset 5, Exode 34 au verset 5, « Et l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » On retrouve au début du passage un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté, qui pardonne l'iniquité, mais on retrouve aussi à la fin de ce passage, à la fin de la manière dont Dieu se présente, le fait qu'il dit « Je ne tiens pas le coupable pour innocent et je punis l'iniquité des pères jusqu'à 4 générations. » Et juste pour souligner un peu cette pensée de Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent, celui qui va juger suivant les œuvres de chacun, Dieu qui est le juste juge. J'ai mis quelques versets, quelques références, juste qu'on lise cela. Jérémie 51, verset 56, « Car Dieu est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun son salaire. » Romains 2, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité. » Dieu rend justice, juge les œuvres des hommes. Pour reprendre l'expression, on rend à chacun selon ses œuvres. Quand Dieu juge, il a deux manières, et si tu veux avancer, il a deux manières de le faire. Il le fait parfois par ce que j'ai appelé une sanction définitive. Dieu juge et prononce une sanction. J'ai juste cité quelques exemples. Lorsque Dieu va détruire Sodome et Gomorre, lorsque Dieu va juger et envoyer le déluge pour recommencer, on pourrait parler de la destruction de Jérusalem, mais bien évidemment on parle du jugement de tous les hommes devant le grand trône blanc d'Apocalypse 20. Et une fois que Dieu a jugé, il prononce une sanction définitive. Mais il y a un autre aspect du jugement de Dieu lorsqu'il juge les actes des hommes, c'est lorsqu'il fait une correction. C'est lorsqu'il va juger, mais parce qu'il veut que le peuple, la ville, l'homme se repente et revienne. Et que si vous lisez l'Ancien Testament, ce n'est qu'une succession d'épisodes où le peuple se détourne de Dieu, adore des idoles, et puis Dieu va juger, envoyer très souvent les nations alentour pour opprimer son peuple. Mais pourquoi ? Pour que son peuple se repente, reconnaisse son péché et revienne. Donc parfois Dieu va exercer la justice, le juste juge, par une sanction définitive, mais parfois c'est dans un but vraiment de correction, parce qu'il cherche la repentance. Et on voit d'ailleurs que dans Romains 11, qu'on a lu, avec l'histoire d'Israël et des nations. Au verset 23, il est bien dit, s'ils changent et abandonnent leur incrédulité, ils seront à nouveau greffés. Dans l'illustration de l'olivier, si la branche d'Israël a été pour un instant retranchée et que la branche des nations a été greffée, et c'est prophétique, lorsque le peuple d'Israël à nouveau se sera repenti et reconnu le Messie, il sera à nouveau regreffé. Tu veux avancer ? Que ce soit à travers les paroles de notre Seigneur, que ce soit à travers ce passage de Romains 12, que ce soit à travers la présentation que Dieu fait de lui-même, qu'on comprenne et qu'on accepte cette complémentarité de ces deux caractères divins. Il est bon. Il est immensément bon et on peut témoigner de sa bonté envers nous. Mais il est aussi un Dieu juste qui rend à chacun selon ses œuvres. Et il est les deux. Et je vous invite à lire la Bible avec ces deux regards. Parce que vous verrez que vous avez très souvent des passages qui sont, comme je l'ai lu, l'un à côté de l'autre, où vous trouvez les deux caractères, ou qui sont mêlés. Prenez l'histoire de Sodome, qui est d'un jugement, j'allais dire, d'une violence et d'une fureur énorme. Et vous allez juste lire avant, Abraham qui va infléchir le cœur de Dieu en disant « Mais s'il n'y a que 40 justes, tu ne vas pas les détruire quand même, puis 30 jusqu'à 10 !» Et vous trouvez toute la grâce et la bonté de Dieu et main en même temps cette justice. Alors je crois que parfois on a du mal à mettre les deux en même temps. Et j'ai du mal à mettre cela en même temps dans ma tête. Et je prie que Dieu nous éclaire pour qu'on comprenne vraiment notre Dieu dans sa complexité, dans ce qu'il est, et pas dans ce que je veux. Et je crois que c'est aussi un appel à l'adorer. Qu'on sache adorer notre Dieu parce qu'il est bon. Mais qu'on sache aussi l'adorer, parce qu'il est un Dieu juste. Il est le seul qui rend une parfaite justice. Alors une fois établi cela, quelque part cet équilibre, si je peux dire ça comme ça, je voudrais qu'on essaie de se l'appliquer un peu. Et qu'on regarde maintenant qu'on a établi ça, et je voudrais parler à trois publics. Et si tu veux avancer, le premier public, c'est si quelqu'un dans cette salle n'est pas un enfant de Dieu. Je citerai simplement le verset de Romains. Je l'invite vraiment à considérer la bonté et la sévérité de Dieu et sa justice. J'ai juste réécrit ce magnifique verset de Jean 3,16 que tout le monde connaît. Et il proclame l'amour de Dieu pour tout homme, pour moi, pour vous. Et en même temps, il dit que celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et à la croix dont on vient de célébrer le souvenir, vous avez le summum de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il a manifesté de manière éclatante son amour en offrant son Fils, et vous avez aussi le summum de la justice de Dieu. Parce que tout ce que j'ai fait, toute ma rébellion contre Dieu, Christ l'a porté. Et pour revenir sur l'expression « Je suis l'Éternel qui frappe », il a été l'Éternel qui a frappé Christ pour moi. Et il faut faire ce choix d'accepter ou de refuser cette offre. Et je crois que c'est essentiel de l'accepter. Et si certains sont interpellés par cela, voilà, je les invite à la fin de ce moment à venir nous voir, à venir voir Olivier ou Lorenzo. Il y a un choix à faire, il ne faut pas tarder. Maintenant, je m'adressais à peut-être ceux qui sont plus nombreux ici, si tu veux avancer, ceux qui sont enfants de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, eh bien vous êtes enfant de Dieu, du Dieu bon. celui qui est le bon père, qui s'occupe de vous, qui est si bon avec vous, vous êtes aussi l'enfant du Dieu de justice. Alors le premier point, c'est que vous êtes effectivement libéré de la sanction définitive, vous ne viendrez pas en jugement. C'est clair. Nous sommes, je suis, vous êtes, pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour l'éternité, acceptés. Vous avez votre place qui est réservée dans la maison du Père. Christ habite en vous, par son esprit. Pas de sanction définitive. Elle est passée, c'est Christ qui l'a portée à ma place. Mais est-ce que je ne pourrais pas être soumis au deuxième aspect, qui est la correction? Lorsque Dieu parfois va corriger et exercer un jugement, mais pour que la nation, la personne se repente, et revienne. Je vous propose quelques versets. Apocalypse 3, verset 18. Moi, je reprends et corrige tous ceux que j'aime. Aie du zèle, repens-toi. Proverbe 3, verset 12. Celui que l'Éternel aime, il le discipline comme un père, le fils auquel il prend plaisir. Et on va lire un passage en Hébreux 12. Hébreux 12 et au verset 5. Et je vais un peu corriger parce qu'en fait, ma version, elle utilise le mot châtiment. Et je pense que ce mot n'est pas forcément bien compris maintenant dans le sens qu'il peut avoir. Il a le sens de correction. Hébreux 12 au verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie ou corrige celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils de Dieu, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que toute correction semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et dans ce passage, l'apôtre Paul compare ce que fait un père, ce que font les pères ici, et ils sont nombreux, les mères d'ailleurs aussi, mais qui vont corriger leurs enfants pour leur bien. Il compare ça avec ce que fait Dieu pour nous, en disant que Dieu va nous corriger. Alors oui, notre Père est un bon Père, oui, notre Père est un tendre Père qui s'occupe de nous, qui nous bénit jour après jour. Il est un Père qui nous parle, et par son esprit, il va nous attirer, nous transformer. Mais parfois, dans notre volonté à vivre notre chemin, dans notre volonté à faire comme on veut, à vivre indépendamment de lui, on va s'écarter. Mais parce qu'il nous aime, il va venir nous chercher et nous corriger. Comme un bon père, par amour. Son but est notre sanctification, comme on lit au verset 10. Ça peut parfois être douloureux, mais c'est par amour. Et donc Dieu, parfois, dans nos vies, va nous envoyer des épreuves comme correction. Alors toutes les épreuves dans nos vies ne sont pas des corrections. Il faut juste être équilibré. Mais s'il arrive que dans nos vies, Dieu nous mette une épreuve pour nous corriger, qu'on puisse être quelque part se repentir du mauvais chemin qu'on a pris. Alors juste, si vous voyez des épreuves dans la vie de vos frères et sœurs, n'allez pas penser que Dieu les corrige. N'allez surtout pas leur dire que Dieu les corrige. Soyez priez pour eux. Par contre, si dans votre vie, Dieu met une épreuve, il est sage de s'interroger. Est-ce que Dieu me parle pour quelque chose? Peut-être que ce n'est pas une correction, mais il est sage de s'interroger devant Dieu et peut-être de revenir de nos mauvaises voies. Non, reviens sur le précédent. Je vérifie où j'en étais, c'est juste. Et donc pour les enfants de Dieu, déjà, aucune sanction définitive. Je suis libéré, Christ l'a pris sur moi. Nous puissions être en louange, en adoration pour cela, mais aussi le louer, parce qu'il est un bon Père. Il m'aime, il s'occupe de moi chaque jour, chaque instant, et même lorsque je m'éloignerai, le Dieu juste va me corriger pour mon bien. Ce n'est pas toujours ce que je désire, mais au final, je peux le louer parce qu'il s'occupe de moi jusque-là. Je vais passer rapidement sur le transparent suivant, parce qu'il est un peu compliqué, et que je veux juste pas... Vous trouverez quand même, parce que ça m'a un peu interpellé, vous trouvez parfois un certain nombre de versets dans la parole, où la correction de Dieu est parfois assez sévère, y compris avec son peuple. Et j'ai quelques exemples ici, vous prenez acte 5, ou dans des circonstances particulières, ou lorsque Dieu répand son esprit juste après la Pentecôte, et que ces enfants de Dieu mentent à Dieu et à l'Esprit, Dieu dit, chut, nul doute qu'ils étaient sauvés, mais Dieu les punit de mort immédiatement. Notre Dieu est un Dieu qui est juste et qui est aussi sévère. Mais c'est des cas un peu particuliers, je crois qu'il ne faut pas forcément en tirer. C'est un sujet que je vais travailler, peut-être que je reviendrai avec vous avec un message complémentaire là-dessus. Parfois, le jugement de Dieu peut aller jusqu'à la mort. Est-ce que tu peux avancer? Je ne veux pas aller trop longtemps là-dessus. La troisième manière de l'appliquer, je voudrais l'appliquer collectivement. Pour notre Église, il y a ce que je fais. Est-ce que Dieu peut... Est-ce que je vis avec Dieu, Dieu bon, mais Dieu qui va aussi me corriger parfois? Mais collectivement, ça peut s'adresser aussi à nous. Et si on regarde, et j'ai noté deux exemples, lorsque dans l'Apocalypse, on trouve ces lettres aux sept églises, dans les lettres adressées aux sept églises, on trouve cette notion de correction. À l'église d'Éphèse, Dieu peut dire « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi ». Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Sévère avertissement pour une église. Et puis, on l'a déjà lu, mais pour l'église de Laodicée, voici, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Que collectivement, en Église, pour notre Église, on ait cet équilibre d'un Dieu qui a béni notre Église. Et on peut, à travers l'histoire de cette Église, voir combien elle était bon, mais il est aussi parfois celui qui peut nous mettre en garde, nous avertir, et collectivement, on puisse s'interroger sur... la marche de l'Église, et que Dieu nous montre, sonde nos cœurs, et que peut-être on puisse se détourner si on s'est égaré. Si tu veux avancer. En conclusion, je voudrais tous qu'on puisse vraiment découvrir Dieu. J'espère qu'on l'a fait un peu ici. Découvrir Dieu comme il est. Et j'ai volontairement un petit peu forcé le trait ce matin. Parce que on présente souvent Dieu bon, Dieu plein de grâce. Et c'est vrai. Et tout ce qu'on dit d'habitude, c'est ultra juste. Ne changeons rien. Mais il est aussi le Dieu juste. Il est aussi le Dieu de vérité. Gardons notre Dieu bon, il est aussi les deux. Voilà. Et que Dieu vraiment travaille nos cœurs pour qu'on découvre notre Dieu vraiment dans toute sa richesse, dans toute sa complexité, dans toute sa grandeur. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez un livre que je trouve très très bien, qui s'appelle « Connaître Dieu » de James Packer, qui est vraiment une espèce de présentation de Dieu, j'allais dire, comme un diamant aux mille facettes. Et j'ai parfois, je vois une facette, il dit super, mais j'ai pas vu l'autre. Et quelque part, si je tourne, je peux dire faire le tour de Dieu, je sais pas si c'est très biblique comme expression, mais si je pouvais comprendre la richesse et la grandeur de mon Dieu dans tous ses aspects. Peut-être un jour je parlerai, parce que c'est toujours la jalousie de Dieu. Dieu est jaloux. Moi, ça m'a toujours... Bref, je ferai un message là-dessus un jour. Mais bon, connaître Dieu tel qu'il est, pas comme je le voudrais. Et puis, je terminerai par ça. Louons-le pour sa bonté. Il est bon. Il est humble de cœur. Il est doux. Il est plein de grâce pour nous. Vraiment plein de grâce. Et je repense à mon précédent message qui est sur le sermon sur la montagne, où Jésus dit, mais aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, prêtez sans rien espérer, soyez bons, aimez, aimez, aimez. C'est ça notre Dieu. Et en même temps, il est Dieu juste, sévère même parfois. Qu'on puisse le louer pour ce qu'il est, et pour les enfants de Dieu, je crois, en tout cas moi j'ai commencé, je ne faisais pas avant, louer par ce qui est même au point qui me corrige parfois. Et je ne faisais pas avant. Et je prie par contre pour moi comme pour vous qu'on sache être sensible à son esprit pour éviter qu'il nous corrige, parce que si on peut éviter ça, ce serait quand même préférable. Mais si on est parfois désobéissant et qu'on se laisse entraîner dans nos égarements, on peut louer parce qu'il va nous corriger. T'as dit Matthieu 7, 21 à... Matthieu 7, 21-23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de vous, vous qui commettez l'iniquité. » C'est un père avertissement. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La première de ses volontés, c'est de reconnaître Christ comme mon Sauveur. Je vais terminer en priant.